Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G, proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités et formations en lien avec le végétal pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console. C'est vachement mieux d'être à deux. Merci Christelle d'être là. Nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. En cette fin d'année 2024, les adhérents du Plantis préparent 2025 et en particulier notre participation à l'événement Food d'Angers, lors duquel nous vous inviterons à découvrir les saveurs des fruits de la nature. Pour vous mettre en appétit, nous vous proposons plusieurs émissions autour des fruits des haies sauvages. Cette émission ouvre le bal avec un arbuste ressource essentielle dans nos haies et nos jardins, le noisetier. Dans la séquence interview, nous irons à la rencontre de Paul Gautreau, producteur de noix et noisettes à Juverdeil. Et la chronique Le bonheur est dans les simples est animée par Karine, qui nous parle des vertus du noisetier. Pour nous accompagner dans cette découverte du noisetier, le chant mélodieux de la citelle torchepeau nous accompagne. Le choix de cette espèce n'est pas un hasard, puisqu'on la surnomme le casse-noisette cachotier. La citelle torchepeau, un passereau très répandu, est dotée d'un autre joli nom, le pic-maçon, car, comme les pics, il dispose d'un bec robuste qu'il utilise comme un outil pour construire son abri ou se nourrir. Il est très reconnaissable avec sa redingote bleue, son plastron roux et un masque noir en travers des yeux. Tel un zoro-oiseau, il a la capacité extraordinaire de grimper aux grands arbres à une vitesse surprenante, aussi bien en grimpant qu'en descendant la tête en bas. Le nom de torchepeau dérive de torchis, car cet oiseau a la capacité à maçonner les cavités naturelles trop grandes pour en faire son nid, comme les cavités des troncs d'arbres ou les infractuosités des rochers. Durant tout l'été, la citelle se nourrit essentiellement d'insectes, chenilles, coléoptères, araignées, arpentant de son bec puissant troncs et feuillages, tête en haut ou tête en bas. Lorsque l'automne approche, la population de proies venant à diminuer, il bascule brutalement d'un menu insectivore à un régime granivore et fructivore. Il se met alors en quête de noisettes, de faines, le fruit du hêtre, et de baies d'aubépine ou de prunelier. Son appétence pour les noisettes lui vaut le surnom anglais de « nuthatch ». Pour accéder aux amandes des fruits secs et se régaler, il coince le fruit dans une fissure d'écorce et le martèle jusqu'à ce que la coque cède. Quelle ingéniosité ! Précautionneux, toutefois, il se constitue ensuite des réserves qu'il dissimule dans tous les interstices qu'il trouve et qu'il recouvre de lichens et d'écorces. Il pourra ensuite consommer ses trésors jusqu'à la fin de l'hiver. La citelle noue ainsi des liens réciproques avec les végétaux, le noisetier fournissant nourriture et l'oiseau assurant la multiplication des noisetiers, dont certains germeront dans les cavités même des arbres où les graines auront été dissimulées. Poursuivons. Et partons à la rencontre de cette plante nourricière exceptionnelle. Le noisetier, nommé coudrier dans l'ouest de la France, est une espèce arbustive sauvage pionnière très ancienne qui a survécu aux périodes glaciaires successives. Il fait partie de la grande famille des bétulacées avec ses cousins bouleaux, charmes, aulnes et ostriers. Cet arbuste forestier abonde dans les haies, les lisières et les clairières de forêts de toute l'Europe. Cette plante héliophile, un peu frileuse quand même, émerge en premier après qu'une trouée apparaît dans la végétation, comme j'ai pu le voir, par exemple, en traversant la forêt brûlée du Pila cet automne. Il faut savoir que le noisetier a mis en place une stratégie bien à lui pour germer. Alors que la plupart des espèces étalent sans attendre leur cotylédon pour capter la lumière, il préfère, lui, les laisser au chaud dans sa coque et préserver ainsi les réserves qu'ils contiennent. Seule une tige nue se hisse du tapis de feuilles de façon à porter le plus haut possible la formation de la première feuille. La compétition vers la lumière est la garantie de la survie. Et de fait, cette technique est aussi utilisée par d'autres espèces à fruits à coque, comme le chêne, le noyer ou encore le châtaignier. Ainsi, né d'une petite branche gracile et feuillue, le noisetier devient touffe, puis buisson ramifié aux branches dressées de 4 à 6 mètres. Devenu adulte, sa silhouette s'étale au fil des ans. Son écorce, reconnaissable, se détache en lamelles. Impossible de confondre son feuillage rond, velu, aux nervures profondes et à l'extrémité dentée, formant une pointe acuminée. Toutefois, le noisetier est avant tout reconnaissable dans nos paysages à la fin de l'hiver, alors que les feuilles sont encore à l'état de bourgeon. Pour se reproduire, le noisetier a mis toutes les chances de son côté. Pourvu des deux sexes et auto-stérile, il a le génie de déployer en premier ses floraisons mâles sous forme de longs chatons jaunes et lumineux de 5 à 10 cm. Le pollen libéré par nuage est transporté par le vent et non pas par les insectes, pour féconder d'autres pieds. Les fleurs femelles, plus tardives et plus discrètes, prennent la forme d'un bourgeon à l'extrémité d'un rameau, pourvu de filaments rouges à leur extrémité. Ce décalage empêche l'autofécondation, mais comme dans la nature, chaque plante se développe à son rythme, le pollen de l'un ira se déposer sur le pistil d'un autre, plus précoce. Chez le noisetier, la fécondation est décalée de la pollinisation et a lieu à la fin du printemps. Il faudra ensuite attendre tout l'été à l'arbuste pour former ces fruits si reconnaissables à la coque cernée d'une collerette appelée involucre et dont la forme permet de distinguer les différentes variétés. La silhouette de cette coque a donné le nom de genre latin Corylus, dont l'origine remonte aux Romains qui l'appelaient Corollus, ce qui signifie casque. Son nom d'espèce, Avellana, son prénom en quelque sorte, provient quant à lui du nom de la ville italienne Abella, réputée pour la qualité de ses noisettes, et a donné naissance à son autre nom français, l'Avellinier. En France, la production nationale n'assure que 10% de la consommation. L'essentiel provient de Turquie, d'Espagne ou encore d'Italie. L'occasion d'écouter maintenant le témoignage de Paul Gautreau, producteur de fruits secs, à Juverdeil pour parler de production locale.
Bonjour Paul, merci d'accueillir l'émission Les Plantes Vagabondes au lieu de ton entreprise. Donc tu es producteur de noix et noisettes à Juverdeil. Et donc la première question c'est comment est venu ce projet, puisque ça n'a pas été ton premier métier, en fait?
Tout à fait, oui. J'ai une formation arboricole et je devais reprendre la suite de mon père en Loire-Atlantique. Et ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, je suis venu travailler en Maine-et-Loire dans les années 90. Et j'ai été licencié de l'arboriculture suite à la crise de la pomme. J'ai décidé de faire une formation. J'ai trouvé du travail dans une coopérative qui s'appelait à l'époque la Cavale et qui est devenue Terena. Mmh. Et ensuite, je pensais en avoir fait le tour. Donc, j'avais 42 ans. C'était quand même passé 20 ans. Et j'avais envie de faire autre chose, c'est-à-dire retourner à mes débuts. C'est-à-dire l'arboriculture.
On revient toujours à ses amours.
Voilà, c'est exactement ça. J'ai un oncle qui est agriculteur qui m'a dit, va voir à Juverdeil, il y a un verger, une noiraie plus exactement, qui est abandonnée depuis 10 ans. Et peut-être qu'on peut y faire quelque chose. Donc je suis venu voir et j'ai demandé à la personne qui avait cette noiret depuis les années 70 cette personne m'a pas pris au sérieux tout de suite. Je suis revenu une deuxième fois, elle m'a toujours pas pris au sérieux. Je suis revenu une troisième fois à l'attaque et la personne m'a dit essayez, on verra bien, mais j'y crois pas beaucoup. Donc j'ai pris le tracteur qui était abandonné depuis 10 ans. J'ai remis en état et puis j'ai commencé pendant mes vacances à retaper la noiret, et parce qu'elle était vraiment en friche, quoi. Donc je l'ai fait certifier bio tout de suite. J'ai eu un constat de friche, donc ça a été possible de la passer en bio tout de suite sans période de conversion, ce qui m'a permis de démarrer tout de suite en bio et de pouvoir vendre mes produits en bio tout de suite.
Ouais. Mais c'est une contrainte, ça.
Voilà, c'est 3 ans en ce moment. Ouais. Donc voilà. Donc, mais vu qu'on pouvait plus rentrer dans la noiret, c'était pas compliqué de la faire certifier. Et donc pendant 5 ans, j'ai fait mon travail dans la semaine et le soir, le week-end, et je prenais la période de récolte en vacances pour pouvoir vendre et récolter mes noix. Et au bout de 5 ans, j'ai basculé, je suis devenu à plein temps nuciculteur.
Nuciculteur, je savais pas.
Tiens. Voilà. j'ai arrêté mon autre travail et j'en ai profité pour replanter des noisetiers qui ont une dizaine d'années aujourd'hui et qui commencent à produire, quoi. Donc voilà.
Et comment tu commercialises alors? Parce que c'est tout un projet, ça aussi. Il y a la production d'à côté, mais c'est vrai que ce que le public ne connaît pas, c'est que c'est bien de produire, mais après. Il faut trouver un système de commercialisation.
Moi, comme j'étais commercial, j'avais la formation Arbo technique et j'ai eu la formation pendant 20 ans de commercial. Donc, j'étais assez à l'aise pour aller proposer mes produits au magasin, parce que je vends tout en direct. Je vends aussi bien au verger, les gens viennent ramasser leurs noix, mais je peux pas tout vendre comme ça. Donc, je vends tout au détail, mais à des magasins. Donc, moi, j'ai choisi un circuit qui est beaucoup sur les biocoop ou les magasins bio, sur les AMAP, sur les magasins de producteurs, et j'arrive à tout écouler comme ça, quoi.
J'ai vu que tu avais aussi mis en place un réseau pour aussi lié à la transformation des produits aussi.
Donc, oui, alors c'est-à-dire qu'on a un petit labo. On a un petit labo et parce que suite à mon installation, j'ai embauché des salariés, quoi. Donc j'ai un salarié qui est plus sur la partie culture et une autre salariée qui est dans un labo et on fabrique nos produits transformés. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de produits transformés à base de noix et de noisettes. On est aussi bien dans du sucré que du salé. On vend ces produits transformés qui sont un vrai plus dans la transfo, quoi.
Donc cette émission aujourd'hui est consacrée à la noisette. Et donc moi j'ai bien compris que tu avais démarré par les noix. Et donc parce que la parcelle elle était déjà en noyer. Par contre le choix de la noisette
En fait la noiret faisait 12 hectares au départ. Et ils avaient commencé à arracher des noyers pensant qu'ils ne vendraient jamais son exploitation. Donc ils avaient replanté des peupliers à la place. Moi j'ai arraché ces peupliers qui étaient sur 1,5 hectare. Moi, j'avais un rêve de gosse qui était de mettre des noisetiers parce que quand j'étais gamin, les noisetiers me servaient à faire des arcs. Donc, j'avais été chercher des noisetiers dans la forêt. Je les avais plantés chez mes parents. Et c'est vraiment un arbre qui me plaisait. Je me suis dit un jour j'aurai des noisetiers. Bon, là, c'était plus pour faire des arcs, c'était pour produire des noisettes. Et j'en ai planté 1,5 hectare. Et aujourd'hui, j'en ai 5,5 hectares parce que j'ai racheté des terres sur une autre commune où j'ai planté noisetiers et noyers pour avoir des noyers et des noisetiers qui produisent plus tard, quoi. Parce que j'ai quand même aujourd'hui beaucoup de demandes et je suis obligé de replanter pour et puis mes noyers deviennent vieux aussi.
Oui, parce que au bout d'un moment, il y a un délai de latence avant d'avoir une production.
Il faut 7 ans pour qu'un noyer commence à produire et 15 ans pour qu'il soit en pleine production. Donc c'est quand même des productions qui sont très lentes et si on veut maintenir une agriculture de noyer dans le secteur, j'ai pas trop le choix. Sachant qu'en plus on n'est pas dans un secteur où il y a beaucoup de noyers.
Oui, tout à fait. Oui, ils sont plus du côté des coteaux calcaires.
Voilà, exactement. Donc pour revenir à la noisette, c'est une plante qui n'a pas beaucoup coup en bio en plus, quoi, parce que on a un souci qui est pas un souci, c'est que on a une réalité qu'on a un petit insecte qui s'appelle le balanin et qui fait le petit trou dans la noisette qui est à peu près le même balanin que pour le châtaignier ou le chêne, mais qui peut nous poser quelques petits soucis de récolte et de tri ensuite, quoi.
D'accord. Et donc, pour finir cette petite interview, je sais pas, est-ce que tu as une anecdote concernant les noisetiers, soit sur la culture, soit la façon dont tu l'utilises aussi, ou tu la consommes?
On s'est aperçu quand même que faire de la noisette bio, c'était quand même assez compliqué, et c'est pour cette raison-là, sans doute qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça reste une plante qui est assez géniale, qui est très rustique dans la forêt, mais qui peut être aussi très fragile en culture de production. C'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de noisettes dans un arbre, et du jour au lendemain, il n'y en a plus parce qu'on a eu un stress hydrique, par exemple. Si on a un gros coup de chaud, si on n'a pas en amont prévu de l'eau pour le noisetier, les noisettes peuvent tomber en 3 jours, il peut tomber 40% de la production. Donc ça reste une production techniquement assez compliquée à faire, le noisetier, alors que dans la nature, il y en a partout, quoi. Ça a été un peu ma surprise, mais aussi ce qui fait que c'est un arbuste qui est assez sympa, finalement, quoi.
Bah oui, et puis peut-être que, je sais pas si tu tailles les noisetiers.
Si.
Donc, ouais. Il y a peut-être une opportunité de faire des arcs, je sais pas.
Oui. Ah ben on pourrait toujours, hein, parce que comme on a des arbres qui font quand même jusqu'à 5 mètres de hauteur, on a des belles branches pour faire. Mais bon, je suis un peu vieux pour faire des arcs maintenant.
Eh ben, en tout cas, merci Paul pour ce partage d'expérience.
Merci.
Je vous invite à une pause en chanson avec le titre Noisette, interprété par Sylvie O'Haro, tiré de l'album Abécédaire écrit avec Da Silva pour la tapisserie de l'Apocalypse du Château d'Angers.
Mais où es-tu, petite noisette? Où te caches-tu que je te croque? Dis donc, ça craque sous les feuilles mortes quand je te cherche là sous mes bottes. Mais où es-tu, petite noisette? Où te caches-tu que je te croque? Dis donc, ça craque sous les feuilles mortes quand je te cherche là sous mes bottes. Mais où es-tu, petite noisette? Où te caches-tu que je te croque? Dis donc, ça craque sous les feuilles mortes quand je te cherche là sous mes bottes. Mais
dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G 101.5 FM, et nous partons aujourd'hui à la rencontre du noisetier. Cet arbuste figure parmi les végétaux les plus anciennement connus sur Terre, et des restes de fruits ont été découverts dans des tombes du néolithique. De nombreuses légendes et symboles se réfèrent à ses pouvoirs de guérison, de fertilité et de réconciliation. Les druides sourciers celtes en fabriquent des baguettes vectrices de magie et d'intuition. Les germains considèrent le noisetier comme arbre magique consacré au dieu Thor et protecteur de la foudre. Le bois de coudrier sert de support aux lettres magiques des celtes. Il est symbole de patience et de constance dans le développement de l'expérience mystique, car ses fruits se font attendre. Chez les dieux romains, Mercure reçoit d'Apollon un bâton de coudrier dont il se sert pour calmer les passions des humains et améliorer leurs vertus. Ce bâton entouré de deux serpents et surmonté de deux ailes est appelé caducée. Il est aujourd'hui encore l'emblème de la profession médicale. Dans nos campagnes, planter un noisetier devant sa maison protège la sérénité du foyer et un morceau d'écorce constitue une amulette efficace contre les querelles. Des amoureux en désaccord se réconcilient en cueillant des noisettes ensemble. Le noisetier sert de bâton aux pèlerins et les protège encore plus si enroulés de chèvrefeuille, comme raconté dans l'émission sur le chèvrefeuille. Les baguettes de coudrier sont réputées seules capables d'aider les sourciers, et ce, depuis des temps immémoriaux. Elles se courbent vers le sol à l'endroit où existe une source. Pour leur assurer un maximum de pouvoir, il faut couper la baguette la veille de la Saint-Jean en s'approchant de l'arbuste à reculons, sans bruit, et passer ses mains sous les jambes pour atteindre la branche souhaitée. Dotée de ses nouveaux pouvoirs, elle vous révélera le lieu de trésors inouïs et vous indiquera l'emplacement de l'objet de votre quête. Les sorcières comme les sourciers s'en servent pour trouver la rivière souterraine. Elles l'utilisent pour confectionner leurs balais, pour jeter des sorts ou pour faire venir la pluie en frappant les flaques et les petites mares. Je me dis, les vertus médicinales des noisettes sont multiples et ont marqué toute l'histoire de la pharmacopée humaine. Ainsi, Dioscoride la considère fébrifuge et calmant la toux. Selon Hildegard de Bingen, elles combattent l'impuissance. Platearius soigne avec elle les morsures de chiens enragés, pilées avec du sel, du miel et de l'oignon. Il propose à ce sujet une recette originale pour maigrir. Pour ceux qui sont trop gras ou souhaitent maigrir, bouillir des fleurs de noisetier dans du vin jour et nuit en rajoutant du vin quand nécessaire. Filtrer et boire pendant 5 jours. Et que tout soit fait au mois de février. Mattioli, quant à lui, fait repousser les cheveux en pilant des noisettes avec de la graisse d'ours. Allez, pour nous parler des usages médicaux actuels du noisetier, écoutons la chronique Le bonheur est dans les simples avec Karine.
Je m'appelle Karine et je suis productrice de plantes médicinales. Je fais des produits sous le nom de Bonaflora HF et aujourd'hui je vais vous parler des propriétés médicinales du noisetier. Et pour le noisetier, le maître mot, je dirais, c'est de faire circuler, de drainer. On en fait des bons remèdes pour les poumons, pour différentes sphères du corps. Il aide à réguler tout ce qui est problème hépatique, pour soulager les rétentions d'eau notamment. Et aussi, on le connaît souvent utilisé lors des épisodes de jambes lourdes, des jambes varicoses ou bien des hémorroïdes. Alors rappelez-vous qu'avec le noisetier, vous pouvez l'utiliser dans différentes sphères, la sphère hépatique, la sphère nerveuse pour soulager les maux de tête, la sphère digestive, la sphère articulaire. Sa période de récolte, si vous récoltez les bourgeons, sera de mai à juin. Et si vous récoltez les feuilles, plutôt récoltez les jeunes feuilles du printemps. Et vous pouvez vous faire différents remèdes. L'infusion de feuilles sèches sera la forme principale. Vous pourrez le ramasser donc au besoin en fonction du moment dont vous avez besoin de faire la tisane. Et veuillez les stocker à plat pour pouvoir les faire sécher. La dose recommandée par le docteur Valnet, qui est un médecin phytothérapeute de l'époque, c'est de 25 grammes par litre d'eau bouillante. On laisse macérer toute la nuit et on peut la consommer dès le lendemain à raison de 2 à 3 tasses par jour.
Les humains ne sont d'ailleurs pas les seuls à apprécier les noisettes. Écureuils, rongeurs, ainsi que certains ours en raffolent et en constituent des stocks pour l'hiver. La noisette est en effet riche en matière grasse, ce qui en fait un aliment particulièrement nutritif, avec 657 calories pour 100 grammes. Le noisetier a aussi la faculté de vivre en symbiose avec le champignon truffier, dont la truffe fait le régal des écureuils, des sangliers et bien sûr des humains. Vous l'aurez compris, le noisetier est une plante alimentaire pour de nombreuses espèces. Cependant, de toutes les espèces, c'est sans doute l'humain qui en a le plus diversifié les usages. En cuisine, les noisettes se consomment crues, torréfiées ou cuites. L'huile de noisette, très riche en vitamine E, est délicieuse, se conserve très bien et est très utilisée aussi en usage cutané. Au Moyen-Âge, les noisilles sont servies avec d'autres friandises, natures ou enrobées de sucre lors de la desserte avant la fin du repas. Vous pouvez en faire une délicieuse pâte à tartiner maison, au chocolat, avec le vrai goût de la noisette. Voici la recette. Faire torréfier 50 g de noisettes, les broyer, puis rajouter 50 g de sucre, 80 g de chocolat noir en petits morceaux, 70 g de beurre et 100 g de lait. Faire fondre le mélange dans une casserole jusqu'à obtention d'une belle pâte lisse. Puis mettre en pot et placer au frigo. Un régal bien meilleur et moins onéreux que le Nutella, quoi qu'on en dise. Les noisettes ne sont pas les seules à être cuisinées. Les chatons mâles, cueillis au tout début de leur floraison au tout début d'année, sont savoureux poêlés et ensuite incorporés dans une salade ou dans une omelette. Les feuilles de noisetier, comme celles du frêne et de l'aulne, sont données en fourrage au bétail à la fin de l'été ou au printemps, lorsque l'herbe vient à manquer. Le noisetier est caduc. Il est préférable de maintenir les feuilles mortes à leurs pieds. Les jardiniers utilisent en paillage, dans le potager, éventuellement les excédents de feuillage. Tous les jardins devraient accueillir un noisetier, car outre l'intérêt de récolter les délicieuses avelines, leurs branches sont très utiles en vannerie, lorsqu'elles sont jeunes, ou pour fabriquer des clôtures, des cannes ou toute construction créative dans le jardin.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux.
C'était Julius Bocarn et son titre « Voici des fruits et des fleurs », un poète belge que je trouve merveilleux. Je voulais partager avec vous ce beau texte de lui en conclusion. Si nous pouvions être d'abord tous et toutes, et avant tout et premièrement, des amants de la vie, alors nous ne serions plus ces éternels questionneurs, ces mendiants enfermés qui perdent tant d'énergie et de temps à attendre des autres, des signes, des baisers, de la reconnaissance. Cette émission est terminée. Avant de nous quitter, vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts. Attention, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour tous les écouter, car à partir de janvier, il ne restera que les deux dernières années. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Si vous avez aimé, partagez ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Moi et Christelle et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous pour découvrir en 2025 une nouvelle plante.
Radio G, www.radio-g.fr.